communiqué. Noir Désir est en sommeil depuis le meurtre de Marie Trintignant en 2003, pour lequel Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison.
Tous les jours.
Ouais, Mauduit.
À partir de 17h.
Allons délivrer François Bunel.
5-7 boulevard.
Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe?
Sur France Inter.
Il a été enlevé par un méchant.
Non.
Mais par qui?
Par Thierry Ardisson.
Ah, l'homme en noir.
Oui.
Eh ben, rendez-vous ce soir à 17h et on lui fait son compte.
Allez, Colin, allons nous battre.
Spring. Paf. Boum. Aïe. Et puis nous, ce soir à 18h, nous nous intéresserons à la sexualité des super-héros.
Ah ouais?
Eh ouais. Et qui couche avec qui et qui trompe qui? Réponse ce soir.
Allez Colin, tous dans la Batmobile.
Yes.
5-7 boulevard.
Attends, il paraît que Superman, il a encore pécho hier soir.
Philippe Collin.
Ah vas-y, un mytho.
À retrouver tous les jours.
Il s'est tapé la femme invisible.
Du lundi au vendredi à partir de 17h. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Enfin, écoutez.
Salut, un coucou d'Auvergne. Bah, juste pour vous dire que Nicolas Sarkozy vient nous faire un petit coucou demain, plus particulièrement à Vichy. Mais comme l'aéroport de Vichy est trop petit pour accueillir le nouveau jouet de Nicolas Sarkozy 1er, qui est son A330 flambant neuf, eh bien, ils sont donc obligés de venir le poser à Clermont-Ferrand. Mais Clermont-Ferrand, c'est pas beaucoup, beaucoup plus gros que Vichy au niveau aéroport. Donc au sol, il n'y a pas de moyens suffisamment conséquents pour accueillir cet avion. Et bah, qu'à Saint-Étienne, on met sur un beau gros camion, bah, un pushback, une passerelle, et on fait descendre tout ça des aéroports de Paris, donc 500 bornes, tout ça pour accueillir le roi, parce que là, c'est un comportement de roi. Voilà, des petites news, histoire de savoir où passent nos impôts. Et oubliez pas, il faut serrer la vis, les gars. Salut.
Bonjour, c'est Pascal de Lyon. Je vous appelle parce que j'ai 38 ans, j'ai fait un peu d'études, et je m'inquiète un peu pour ma retraite, parce que je ne suis pas malade, ni handicapé, ni enceinte, et j'ai pas commencé à travailler à 14 ans. Alors je voudrais savoir si j'y aurais droit quand même. Mais bien sûr, avec la nouvelle réforme des retraites, comme tout le monde, vous y aurez droit. Vous devrez juste travailler jusqu'à 65 ans minimum et prendre une complémentaire avec nos amis les assurances privées qui seront très heureuses de vous accueillir. N'ayez pas peur, prenez de la vitamine C et tout se passera bien. C'était un message du gouvernement qui vous explique les choses. Bonne chance.
Oui, bonjour, c'est Solange d'Aveyron. Suite à l'émission d'hier sur le marché des vieux, j'ai reçu ce matin, là, par le courrier, donc un courrier de Malakoff Médéric, m'invitant à souscrire à une assurance d'essai, afin d'être enterré dignement, ça ne soit pas mes enfants qui soient obligés de payer, sachant qu'un enterrement, c'est un coût de 4000 euros. Donc régulièrement, je reçois ce courrier, j'ai quand même que 63 ans. Merci et bonne journée.
Il n'y a pas que le privé qui fait de l'argent avec l'or gris. Dans le public, au tarif d'hébergement de 2000 euros par mois, c'est le patrimoine et les économies de toute une vie. Et si insuffisant, celle des enfants que l'État récupère. Il y a maltraitance, mais elle est institutionnelle et délibérée, politico-médico-sociale. Après fracture du col du fémur, une personne âgée n'est plus prise en charge dans une maison de convalescence. Elle est dirigée dans une unité de long séjour pour le coût de 2000 euros par mois. Elle va être attachée jour et nuit pour sa sécurité, naturellement. Être équipée de couches, même si elle n'est pas incontinente, ingurgiter des cocktails de psychotropes pour sa tranquillité, ne pas être équipée de ses prothèses, avoir des perfusions pour suppléer le manque d'hydratation en journée. Ainsi, l'institution médicale qui a vocation de soigner va fabriquer en 2 mois une parfaite grabataire. En revanche, les aides-soignantes, 3 pour 42 personnes, qui gèrent l'impossible, sont les autres exploités de cette histoire véridique observée dans les Hautes-Pyrénées et certainement ailleurs. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter avec intérêt votre émission de cet après-midi et pour cause. J'ai dirigé pendant près de 20 ans des maisons de retraite publiques. Je précise bien public car cela a son importance. Des maisons de retraite rurales où officiaient des personnels dévoués, compétents, aimants. Et pourtant, maltraitance, il y a eu et il y aura encore. Mais la maltraitance n'est pas là où vous pensez. Elle est institutionnelle. Nos gouvernements successifs se sont enorgueillis d'avoir pondu un plan grand âge et un plan Alzheimer avec de belles et grandes idées et beaucoup de recommandations dont ils se sont ensuite complètement fichus en rognant sur les moyens promis dans la fameuse journée de solidarité. Vous savez, le fameux lundi de Pentecôte que tout travailleur doit dorénavant exécuter gratuitement pour financer le bien-être de nos aînés. Quelle fumisterie ! L'État plonge allègrement la main dans les caisses de la CNSA pour toute autre chose que pour les vieux. Et nos locaux continuent de se dégrader sans aucun moyen pour les remettre en état, voire aux normes. Il faut dire que les maisons de retraite publiques ont la particularité d'être les seules institutions publiques où c'est le résident lui-même qui doit financer le toit qu'il a au-dessus de la tête. Alors un bonjour, j'ai dit ras-le-bol, je ne veux plus cautionner tout ça. Et j'ai décidé de changer de vie. Aujourd'hui, je pense à en écrire un livre. À bientôt, Daniel.
Salut, Mermé. Alors, on n'est pas corporate, on n'aime pas sa boîte. En effet, cette semaine, en 4x3 le long du périph' à Paris, on y voit la bobine de Pascal Clark, Patrick Cohen, Audrey Pulvard, Stéphane Bern, Patrice Gélinet, etc. Mais pas la tienne. C'est bizarre, tu veux pas faire de la pub pour France Inter? À moins que la direction ne veuille pas que l'on te fasse de la pub à toi. Bon, bah c'est pas grave. Allez, continuez le combat, éclairez-nous comme vous le faites d'habitude. Merci.
Merci, bonsoir, merci. Daniel, ah, il y avait encore un message. On l'écoute ou bien on l'écoute pas? On l'écoute.
Bonsoir Daniel et à toute l'équipe. J'écoutais il y a quelques instants les nouvelles sur France Info. On nous parlait de la prise d'otage qui a eu lieu aujourd'hui même à Orléans. Sans doute pour mieux nous aider à comprendre les dessous de l'affaire, le journaliste tente un portrait du preneur d'otage, nous expliquant en gros qu'il était du genre instable et psychologiquement perturbé. Et pour preuve de l'état mental délabré de ce dangereux individu, notre journaliste conclut, sans qu'on comprenne bien où est le rapport, par cette petite phrase. Il est pro-palestinien et militant anti-OGM. Alors moi, après ça, je ne sais pas si on est mieux avancé concernant l'état mental du preneur d'otage, mais en tout cas, concernant celui du journaliste, le diagnostic est malheureusement très, 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 très inquiétant.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. On vient de virer le technicien là qui s'était trompé de message. Hein. Il faut quand même mettre un peu de discipline dans cette maison et dans cette équipe. Merci à tous. On est des retours. Mais je suis désolé. Je suis là, mais je suis là-bas. Je suis resté là-bas au Congo. J'en reviens pas. Congo, Kivu, Katanga. On n'en revient pas, tout frustré qu'on est avec Guy Van Til, de ne pas avoir vu tout ce qu'on voulait voir, de ne pas avoir rencontré tous ceux qu'on voulait rencontrer, de ne pas avoir compris tout ce qu'on espérait comprendre. À commencer par cette question, comment un pays comme celui-là, la République démocratique du Congo, naturellement riche, naturellement le plus riche, l'un des plus riches du monde, est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Et quel lien y a-t-il entre eux et nous, entre cette Afrique oubliée et qui s'enfonce de plus en plus, et nous? Quel lien? La compassion, la culpabilité, la fatalité, l'ignorance, ou pire, une curiosité qui se limite à une sorte de pittoresque de la misère, on s'interroge. Et pourtant, des liens, il y en a, au moins en ce moment même, où je vous parle, dans toutes les machines, ordinateurs, portables, consoles, il y a un minerai, qui est le coltan, qui est un minerai indispensable au fonctionnement de tous ces appareils. Et ce coltan, ce minerai, eh bien, il provient en grande partie, presque exclusivement, du Kivu, du Nord Kivu, où d'où nous venons. Et ainsi que la cassitérite, un autre minerai qui fournit l'étain, aussi indispensable au fonctionnement de toutes ces machines. Et puis ensuite, au Katanga, nous étions, d'où vient le cobalt. Le cobalt, lui aussi, qui fait partie des éléments qui rentrent dans les batteries de tous les appareils que j'ai cités. C'est dire s'il y a un lien. Là, c'est bel et bien un lien quand on verrait, dans la base où j'y suis, les conditions des mineurs, des creuseurs, qui travaille dans ces mines. On verra le lien qui existe entre là-bas et ici. Il y a d'autres liens, bien évidemment, des liens historiques, la colonisation, qui nous a valu à nous, et bon, en l'occurrence à la Belgique, un enrichissement et un décollage formidable. On célébrera, on évoquera les 50 ans de la décolonisation des Afriques en général et du Congo belge en particulier. Le 17 janvier, on évoquera l'assassinat de Patrice Lumumba, 17 janvier 1961. Pourquoi Patrice Lumumba a-t-il été assassiné et par qui? Bref, on est encore dans cette Afrique. Et ce qui est revenu tout le temps au cours de ces jours et de ces discussions et de ces rencontres et de ces reportages, c'est le mot État. Il n'y a pas d'État. La République démocratique du Congo n'est pas un État. Il n'y a pas d'État. Il faudrait un État. Comment construire un État? Ce mot est revenu tout le temps, cette idée est revenue tout le temps, dans toutes les bouches qui étaient en face de nous. Face évidemment à la corruption généralisée, aux rackets, aux dessous de table de toutes sortes, puis les petits, quelques petits sous qui sont récoltés par les uns et par les autres, essentiellement par les hommes qui ont la chance de posséder une arme, mais par tous et au plus haut niveau de ce qui n'est pas un État, mais qui est toujours une kleptocratie. Et puis, quand même, on atterrit, on rentre, on revient, et qu'est-ce qu'on trouve en France pendant ce temps-là? Eh bien, une affaire d'État et une affaire de corruption. L'affaire Karachi, l'affaire de Karachi. L'attentat de Karachi, l'histoire qui a explosé pendant que nous étions absents. Voilà. L'État, la question de l'État, la question de la corruption, la question du détournement, la question du silence, de la dissimulation et du déni de démocratie. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec ce reportage de François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Arnaud Montebourg est inspiré. Le capitalisme coopératif. Rendez-vous compte, les détenteurs de capitaux coopèrent avec ceux qui vendent leur force de travail. La loi du marché coopère avec les travailleurs. La concurrence libre et non faussée coopère avec le monde du travail. Et si le capitalisme coopératif n'était rien d'autre que la collaboration de classe, oubliant ainsi le conflit capital-travail? Régis de Nîmes.
Bonsoir là-bas, si j'y suis. Ben voilà, les pompiers pyromanes de la Banque Centrale Européenne et du FMI volent au secours de l'Irlande. Bon, ce qui va vouloir dire, grosso modo, quand on voit les résultats du FMI en Afrique et en Amérique latine qui vont finir de lui plonger la tête dans l'eau, on peut se poser la question de savoir si en venant au secours de l'Irlande, ils vont pas précipiter la crise en Espagne et au Portugal, parce que personnellement, je serais un spéculateur, je mettrais la pression sur l'Espagne et sur le Portugal que tout le monde définit comme fragile pour faire flamber les taux d'intérêt, sachant que de toute manière, si jamais les taux d'intérêt flambent, bah c'est pas grave, le FMI et la Banque centrale passeront derrière pour allonger la monnaie.
Selon les informations qui ont été
AFP
rapportées hier à la suite d'une réunion entre les
19 juin 2009
parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions. On parle même de rétro-commission qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du budget, vous avez été au courant de tels accords?
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Bon, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Je vous respecte. Écoutez, soit il y a des éléments, donnez-les-nous. C'est grotesque. Voilà.
Voilà. C'est grotesque, franchement, c'est ridicule. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Karachi, Gate.
Flight number 2, arriving from...
Avec les mouettes qui tournent dans le ciel, là. On est à Cherbourg, avec en face de nous les restes des fortifications. Derrière nous, on est passé devant l'arsenal. Donc on est au bout de ce bras de terre qui, en Normandie, trempe dans la Manche. Et cette ville-là de Cherbourg, où on se trouve, où on est, on y est parce qu'elle est reliée à une autre ville à l'autre bout du monde. Une ville dont on n'aurait pas entendu parler. À Cherbourg et ailleurs en France, il n'y avait pas eu l'attentat de Karachi le 8 mai 2002. Donc ces deux villes qui sont reliées par, on va dire, par la douleur, par le sang, puisqu'il y a eu 14 victimes, dont 11 Français dans cet attentat le 8 mai 2002. Et c'est un lien, le lien entre ces deux villes, le lien entre Karachi et Cherbourg. C'est un lien qui passe, on va le voir, par des cabinets ministériels, par des officines discrètes, par des comptes dans des banques offshore, par les cabinets d'instruction. Et on va essayer de reconstituer ce puzzle, essayer de comprendre cette histoire du début à la fin, essayer de faire le lien entre 1994, la signature du contrat pour 3 sous-marins au Pakistan, et l'attentat de 2002, puis aujourd'hui 2010. Ce que je te propose, c'est un peu l'affaire Karachi expliquée à ma mère, parce que on a tout par petits bouts. On a un peu de Sarkozy, du Millon, du Léotard, du Balladur, du Chirac, du Ben Laden. Il y a une salade et puis on comprend pas très bien quels sont les liens entre tout ça. On a tout par bribes, donc voilà. J'ai essayé de lui expliquer en 5 minutes à ma mère. J'ai essayé de lui expliquer le lien entre tout ça, ce qui s'est passé en 94, la campagne de Balladur, la signature de ses contrats, de Sawari 2, l'Arabie Saoudite, ensuite l'instruction du juge Bruguière. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais en 5 minutes, c'est pas facile. Donc on va prendre une heure, on va peut-être prendre 2 heures pour aller l'affaire de Karachi expliquer à ma mère.
Il y a des élections dimanche prochain à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue parisienne, chez notre ami Serge Dassault. Des élections. Et vraisemblablement, le gagnant de cette élection sera l'abstention. On pense qu'il y aura 60, 70%, peut-être encore davantage d'abstention. Pourtant, l'enjeu est important. Pourtant, les habitants de Corbeil-Essonnes sont de braves gens, de bons républicains, de bons démocrates. Et pourtant, majoritairement, ils n'iront pas voter. Peut-on parler de dépolitisation? Certainement pas après le mois d'octobre que nous avons eu, où on a vu se multiplier des manifestations avec 2 millions, 3 millions de Françaises et de Français dans les rues qui faisaient bel et bien de la politique. Alors pourquoi ce refus? Pourquoi traîner les pieds pour aller devant les urnes, pour aller mettre son bulletin dans l'urne? Il se pourrait bien que, pour certains, la politique consiste à mentir au peuple, à tromper l'électeur, à l'embobiner, à l'abuser par tous les moyens possibles de la communication, comme on dit. Il s'agit bel et bien de déni de démocratie. Ça n'a rien de nouveau. Le pouvoir, c'est fait ce qu'il dit. Le pouvoir ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait. On connaît depuis très longtemps cette maxime. C'est pas pour autant qu'on s'y habitue. Édouard Herriot disait: la politique, c'est comme l'andouillette. Il faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. Pas trop, disait-il. Il se pourrait bien qu'il y ait un peu trop de cette odeur dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. L'affaire qui met le président de la République au centre. Au moins, dans le livre de Fabrice Arfi, de Fabrice Lhomme, qui s'intitule Le contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier, qui nous a servi, qui a servi à François Ruffin comme base de ce reportage et de ce travail d'enquête. Un très bon bouquin qui honore un peu ce métier, qui en l'occurrence n'a pas brillé par sa pugnacité et par son goût du contre-pouvoir, car face à cette obscurité, cette opacité, cette fumée que ce pouvoir développe, eh bien il faut des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, ils sont notre métier de journalisme, ils sont la justice, ils sont aussi, on va le voir, les familles des victimes qui veulent la vérité. C'est une histoire complexe, effectivement, et François Ruffin a décidé de la raconter à sa mère. Il pourrait aussi bien me la raconter à moi, qui était absent pendant que cette affaire a explosé ces jours derniers, même si on la suivait auparavant. Et j'espère à tous, on va prendre le temps de raconter cette histoire pour ceux qui ont raté le début ou qui n'apprennent les choses que par fragments. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Karachi Gate.
C'est l'argent tout
décidé.
Ils ont le pouvoir mais pas
décidé.
Pourtant pour nous ils ont
décidé.
Contre les soldats dans l'IA
décidé.
Encore faudrait-il pouvoir
décidé.
Mais pour garder l'eau glacée
décidé.
Ils seraient même prêts à nous
dessouder.
Ce monde est vrai du monde
décidé.
Donnez-nous du cash pour
décidé.
On n'a pas d'argent mais on a
décidé.
Il faudrait se battre pour
décidé.
Il faudrait se battre pour
ce matin, des employés de la direction des constructions navales, la DCN, s'apprêtent à quitter leur hôtel de Karachi.
TF1, 8 mai 2002.
Comme chaque matin, ils se rendent au chantier naval où ils travaillent sur la construction de sous-marins pakistanais. Soudain, une déflagration. Premier bilan, 14 morts, dont au moins 10 Français. Les blessés, une vingtaine, sont pour certains dans un état critique.
On va passer derrière le Lidl. On va aller chez Monsieur Gilles Sanson, qui est l'un des blessés de l'attentat de Karachi, qui se trouvait dans le car au moment où une voiture a explosé.
François Ruffin de...
Merci.
Voilà, on est chez Gilles Sanson. François Ruffin vient de le dire. Gilles Sanson est un des survivants de l'attentat de Karachi. Il était dans le bus. Il était à l'époque usineur à la DCN, à la Direction des Constructions Navales, et il témoigne.
Donc c'était ma quatrième mission en fait à Karachi, et j'avais donc pour mission de travailler à l'usinage des tubes lance-torpilles sur les sous-marins Agusta 90B pour le Pakistan.
Est-ce que vous avez un souvenir du 8 mai 2002 ?
On a pris le bus comme tous les matins, sans soupçon particulier. En fait, l'hébergement des personnels se faisait sur deux hôtels à Karachi, l'Avary Tower, qui était l'hôtel où j'étais, et aussi le Sheraton, où a eu lieu l'attentat. Donc, dans un premier temps, le bus est venu chercher à 7h30 une grande partie du personnel, puisque 17 ou 18 personnes, je crois, ont dû monter à l'Avary Tower, et puis 6 personnes supplémentaires, ou 5 au Sheraton. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où le bus s'est arrêté, que le kamikaze s'est rapproché du bus et l'explosion est intervenue, quoi.
C'est une voiture qui s'est accolée au bus, et c'est cette voiture qui était piégée.
Oui, oui, une explosion, ça passe indescriptible, hein. Aujourd'hui, les spécialistes de la police scientifique de Paris qui se sont déplacés sur les lieux estiment la charge d'explosifs à 60 kg équivalent TNT placée dans la malle du véhicule, quoi. Par la puissance de l'explosion, il y a un souffle énorme, hein, qui vient frapper en fait le plancher du bus, hein, et c'est cette onde de choc qui est répercutée sur les articulations et qui casse les os dans un premier temps, mais aussi qui détruise des cartilages. Comment décrire ? J'ai eu le sentiment que ma tête avait triplé de volume, et puis bon, très très rapidement, je m'aperçois que mon bras est cassé, mes pieds sont en train de gonfler à vue d'œil, et puis bon, c'est l'horreur autour de moi, quoi. Une grosse odeur de brûlé, l'impression que tout va s'enflammer, et puis il faut sortir du bus, donc je décide de sortir du bus, mais pas sur mes pieds, en rampant, et puis je me retrouve dans le milieu de la rue, en attendant que les secours arrivent. Ça n'a pas été très long, quoi, en fait, hein. Alors, la première ambulance qui arrive, en fait, s'arrête face à moi, puisque moi, j'ai pu sortir du bus en rampant. Je pensais être le seul à être sorti du bus, d'ailleurs. Donc, elle prend en charge une mendiante qui était aux abords du bus, qui n'était pas dans le bus, hein. Une mendiante qui était là, couramment, aux abords du Sheraton, à mendier, quoi. Et donc, cette mendiante qui était décédée est prise en charge par cette première ambulance qui arrive. Et puis, il n'y a qu'un brancard, hein, dans cette ambulance, hein. Donc, moi, je suis chargé aussi dans l'ambulance, à côté de la mendiante, quoi, assis par terre, hein, où je remets, durant le transport, le bras de cette pauvre femme qui tombe sur moi. Enfin, bon, c'est un peu dur. Alors là, on est transféré vers Jinnah Hospital. Les ambulances arrivent, en fait, hein, les unes après les autres. On est tous mis dans une pièce commune, hein, en fait, hein, où on, dans ces pays-là, on gère pas l'urgence, comme dans les hôpitaux français, où on sépare les morts des blessés, hein. Tout le monde est dans une pièce commune, voilà, donc je vois arriver de nombreux copains qui sont recouverts d'un drap blanc taché de sang, enfin, voilà. Et puis mes collègues blessés aussi, bien évidemment, hein, pour certains conscients, d'autres qu'ils ne sont pas. Et puis, beaucoup de panique, surtout, hein.
La voiture a été aussi piégée très vite, en une nuit.
France 5, 10 mai 2002.
Cet élément-là, associé à l'analyse du mode opératoire, de la planification longue et rigoureuse qui a été faite, des repérages, des informations confidentielles dont disposait vraisemblablement le réseau pour cibler précisément les Français, et puis au final l'exécution implacable avec une opération kamikaze et une voiture piégée, tout cela fait penser aux enquêteurs, notamment à ceux qui sont présents sur le terrain, DST, FBI, service pakistanais, qu'il s'agit bien de la main d'Al-Qaïda, qu'un réseau lié à Al-Qaïda, ouais, est derrière cet attentat.
Dès votre retour en France, la thèse qui est avancée, c'est que c'est Al-Qaïda.
On est quand même 6 mois après le 11 septembre, hein. Voilà, il faut savoir que la France est aussi engagée en Afghanistan. Le porte-avions Charles de Gaulle venait de passer quelque temps au large de Karachi, hein. Les avions français aussi avaient été amenés à bombarder le territoire afghan, hein. Donc évidemment, nous, on n'est pas surpris quand on nous annonce en 2002, je dis bien en 2002, cette hypothèse, bah, quoi. Aujourd'hui, ne tient absolument plus, hein.
Au bout de plusieurs années, qu'est-ce qui fait que vous voyez les choses autrement ?
Le tournant de l'affaire de Karachi, en fait, intervient au courant de l'année 2008, hein. Au départ, en fait, c'est une perquisition de la brigade financière au siège de DCNS, hein, pour une affaire de corruption qui n'avait rien à voir, en fait, avec Karachi, hein. Et donc, au cours de cette perquisition de la brigade financière, un certain nombre de documents sont saisis. Et entre autres, dans les documents qui ont été saisis dans le bureau de Gérard-Philippe Menayas, directeur financier administratif de DCNII, on retrouve les fameux documents dits Nautilus, hein. Et donc, à la lecture de ces documents, les juges ont fait le rapprochement, en fait, avec l'affaire de Karachi, hein.
C'est-à-dire que le point de départ de l'enquête, le second point de départ de l'enquête, au fond, est extérieur à l'attentat de Karachi. C'est une affaire de corruption de la direction des constructions navales. Il y a une perquisition qui se déroule là-bas, et là, on en sort ce qui est appelé le rapport Nautilus. Vous l'avez lu, le rapport Nautilus ?
DCNS avait en fait embauché dans les jours qui ont suivi l'attentat une officine qui était dirigée en fait par Claude Thévenet, un ancien de la DST. Hein. C'est une personne qui a passé 15 ans à la DST, à l'antiterrorisme.
La direction des constructions navales missionne un ancien agent des services secrets, Claude Thévenet, pour savoir un peu ce qui s'est passé à Karachi, dans l'attentat de Karachi. Et Monsieur Claude Thévenet rend un rapport dont je vais lire quelques lignes. « Après de nombreux contacts, tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée et au sein des bureaux de soutien aux guérillas islamistes de l'ISI. Les personnalités militaires ayant instrumentalisé le groupe islamiste poursuivaient un but financier. Il s'agissait d'obtenir le versement de commissions non honorées lors de la signature du contrat de septembre 1994. » C'est-à-dire que là, M. Thévenet avance, parce que c'est juste une thèse, c'est pas non plus une parole d'évangile.
Il faut savoir que Claude Thévenet a quand même aussi des contacts, hein, puisqu'il a travaillé, comme je le disais, à l'antiterrorisme et dans les services français. Et Claude Thévenet, tout simplement, se rapproche d'un ancien du MI6.
Ancien... Service secret britannique.
Britannique, oui, voilà. Et aussi, il a une source libanaise qui l'informe bien, qui rapidement amène à ses conclusions.
Il faut se rappeler que ce premier rapport Nautilus est amené le 26 juin 2002. Donc, c'est-à-dire que dès les semaines qui suivent l'attentat, d'après Claude Thévenet, d'après cet ancien des services secrets, lui avance une autre piste que l'attentat islamiste. Il dit, c'est sans doute lié à une affaire de commission non versée. Et ça, c'est pas en 2008. On en a connaissance en 2008, mais ce rapport est rendu à la direction des constructions navales dès les semaines qui suivent. Oui. Donc, ça veut dire que dès les semaines qui suivent, au sommet de l'État, au sommet de la DCN, de la Direction des Constructions Navales, ils savent que c'est possible que ça soit une histoire de commission. Et pendant 6 ans, personne ne dit rien.
Voilà, vous avez tout dit, je crois. La colère des victimes, elle est là. On est comme dans une affaire extrêmement grave, avec 11 morts, 12 blessés graves, enfin quelque chose de dramatique, quoi. Et on voit que DCN a en sa possession un document qu'elle ne remet pas à la justice. Pourquoi ? L'entreprise 100% étatique à l'époque, 100% étatique au moment où elle a connaissance du document de Nautilus. Donc ça renforce la conviction, ma conviction toujours, qu'on nous a caché quelque chose. Voilà.
Vous savez, oui, dans l'attentat de Karachi, j'ai jamais rien lâché, quoi. Et je lâcherai jamais. Voilà. J'ai vu mourir certains de mes collègues. Voilà, j'en ai beaucoup souffert. Essayez d'imaginer un petit peu en 2008, quand on m'a appris que ce document de Nautilus a été saisi au siège de l'entreprise qui m'emploie encore aujourd'hui et qui m'a caché ce document. Moi, je suis citoyen français et je pense que j'ai toujours été derrière mon drapeau, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a un peu la chair de poule quand j'entends la Marseillaise. Aujourd'hui, ça devient difficile parce que l'État français m'a quand même trahi, hein. Mon entreprise m'a aussi trahi, voilà. Il y a quand même 11 morts, 12 blessés graves dont je fais partie. J'avais le droit, en tant que citoyen français, d'avoir des explications sur les raisons. Pourquoi j'ai passé 6 mois dans un fauteuil roulant? Pourquoi j'ai été blessé à Karachi? Pourquoi mes copains sont pas revenus? Voilà, on était à Karachi pour porter les couleurs de la France. Pourquoi ne pas avoir donné ces documents qui étaient aussi sensibles, hein? Quand on garde en secret des documents aussi importants aussi longtemps, hein, c'est probablement la réponse de l'attentat de Karachi.
Changement de cap dans l'enquête sur l'attentat de Karachi qui avait fait 11 victimes françaises en 2002, des employés de la direction des chantiers navals.
France 3, 18 juin 2009.
La justice française abandonne maintenant la piste islamiste et travaille désormais sur l'hypothèse d'un attentat commandité par des militaires pakistanais dans une affaire complexe de vente d'armes impliquant la France. Un dossier qui devient donc sensible politiquement. Anne-Charline Lambard.
C'était il y a 7 ans. 14 morts, dont 11 ingénieurs français de la DCN. Très vite, l'ombre d'Al-Qaïda plane sur l'enquête. Et aujourd'hui, devant les familles des victimes, les juges antiterroristes font volte-face. L'attentat de Karachi serait une vengeance d'agents pakistanais en raison du non-versement par la France de commissions occultes.
Maître Thibault de Montbrial, vous êtes avocat de 6 blessés. Lors de la rencontre avec Gilles Sanson, il a notamment évoqué le rapport Nautilus comme un point de bascule dans le dossier. Mon sentiment, c'était que pour Gilles Sanson, mais aussi pour pas mal de familles de victimes, le rapport Nautilus était un peu comme une parole d'évangile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le rapport Nautilus l'avait dit, ben, c'est qu'il y avait un lien entre les commissions, les rétrocommissions et l'attentat de Karachi en 2002. Or, ce lien est quand même loin d'être prouvé.
Alors vous avez raison de souligner que le rapport Nautilus a marqué un tournant pour les victimes de l'attentat de Karachi. Et c'est pas tant un tournant révélation d'une vérité, qui reste encore complètement à établir, que le tournant fondé sur la révélation d'une dissimulation. Et c'est ça qui est essentiel. C'est que de 2002 à 2008, les blessés de l'attentat de Karachi avaient été bercés par la parole de la DCN qui leur expliquait qu'elle était à leur côté comme victime et qu'elle n'avait aucun élément et que comme elle s'en remettait à l'enquête judiciaire pour avancer, etc., etc. Et en 2008, la presse a révélé l'existence d'un rapport daté de 2002 remis à la DCN et qui démontre que dès cette époque, la DCN se pose des questions, L'existence de ces interrogations ayant été soigneusement dissimulées par la DCN, non seulement à ses salariés victimes, mais également au juge d'instruction. Et c'est à partir du moment où, 6 ans après l'attentat, les victimes se sont rendues compte que leur employeur leur avait dissimulé une interrogation, non pas une vérité, mais une interrogation majeure, que forcément, mes clients se sont tout à coup demandé pourquoi on le leur avait caché, et qu'ils se sont mis à se poser des questions. Et il ne s'agit pas de savoir, à ce stade, si oui ou non il y a un lien au final entre les commissions, les rétrocommissions, l'arrêt de leur paiement et l'attentat de Karachi. Il s'agit simplement de savoir pourquoi la DCN a dissimulé ce rapport qui pose quand même des questions importantes à ses salariés et aux juges d'instruction. Et c'est ces réponses-là que mes clients attendent. Ils n'ont pas envie que des hommes politiques français soient à l'origine de ce qui leur est arrivé. On verra plus tard si c'est le cas ou pas. Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Mais ils ont simplement envie de savoir pourquoi DCN a dissimulé cet élément capital, non seulement à ses salariés victimes, mais également aux juges d'instruction.
La vérité, une notion absolue qui n'engage que celui qui l'émet. Un mensonge à l'envers, un secret difficile à garder. La vérité peut être subversive si l'on accorde encore un sens à ce mot. La vérité ne se trouve pas dans une chanson qui passe à la radio. La vérité, une idée abstraite à appliquer au quotidien. Un mot de passe dans une bouteille à la mer, roulette russe, pistolet à eau. La vérité apparaît toujours comme une évidence, un coup de fouet dans le dos. La vérité pousse au cul, la vérité pousse. La vérité est en marche, la vérité, la vérité, la vérité est en marche, la vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité écrase tout sur son passage, 6000 second degré, n'épargne aucune tranche d'âge, il n'y a rien de plus vague, de plus agressif que la vérité, il n'y a rien de plus improbable, de plus séculaire que la vérité. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose, une direction droit devant, ça veut dire quelque chose, une direction droit devant. Droit devant, droit devant. La vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité.
On se retrouve là derrière, derrière le palais de justice, sur une petite place, juste derrière le palais de justice de Paris. Et donc c'est de cette institution, du palais de justice, que vous attendez
Qu'on attend simplement que... Enfin, on n'attend pas, puisqu'il le fait déjà, que le juge Trévidic fasse son travail, qu'il le fasse correctement. Et ce qu'on attend surtout, c'est que cet homme qui travaille au palais de justice sur notre dossier puisse avoir les moyens de travailler réellement. Et puis si un jour on a un procès aux assises, ce sera évidemment l'aboutissement de tout ça.
Voilà, vous les avez vus pas mal sur les télés ces temps derniers, ces deux femmes, Magali Drouet et Sandrine Leclerc, qui viennent de publier un bouquin, on nous appelle les Karachi, donc deux filles des victimes de l'attentat de Karachi, qui témoignent et qui se battent. Magali Drouet et Sandrine Leclerc ne votent plus depuis 2002. J'évoquais les élections ce dimanche prochain à Corbeil-Essonne, et ben voilà, elles ne votent plus. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais je ne peux pas prendre le risque de soutenir une personnalité qui pourrait être impliquée dans la mort de mon père, explique Sandrine Leclerc. Et Nous y voilà, cette méfiance, cette défiance face à la politique, face au monde politique, face à l'oligarchie politique, cette défiance. Alors que, voilà, le principe général, c'est que nous sommes des électeurs, nous sommes des citoyens, et ces messieurs et dames sont là pour nous représenter. Je parle d'une manière très naïve, mais face à cette magouille, à ces obscurités, à ces mensonges, à ces dissimulations, il n'y a qu'avec des arguments comme cela qu'on peut se sentir motivé pour lutter. Ces deux femmes ont d'autres motivations qui sont évidemment la mort de leur père.
Là, on est ici à Paris parce qu'il s'est passé quelque chose à 7000 km d'ici, quasiment à l'autre bout de la planète, à Karachi, dans une ville assez importante du Pakistan, une ville où se trouvaient vos pères.
Alors mon père s'appelait Jean-Yves Leclerc, il était mécanicien dieseliste pour la DCN, il y était rentré très jeune, c'est la grosse entreprise on va dire de Cherbourg et qui était une industrie d'État à l'époque de l'attentat. Donc il est parti à Karachi sur la base du volontariat pour améliorer les finances familiales et entre autres financer les études de ma sœur comme il l'avait fait pour moi. Et dans le cadre du transfert de technologie qui avait été mis en place par la direction des constructions navales autour des sous-marins Agusta. C'était quelqu'un de simple et qui le revendiquait. C'était quelqu'un qui était fier de son statut d'ouvrier. J'ai appris après sa mort de la bouche de ma mère en fait que quelques mois auparavant, papa avait sauvé la vie d'une personne âgée au port de Carqueville où il avait ses habitudes puisqu'il y avait un bateau. Il nous en avait même pas parlé à nous parce qu'en fait il aimait pas se mettre en avant. C'était quelqu'un de simple quoi, qui aimait vivre dans son quartier, qui aimait la nature, qui aimait la pêche, qui aimait passer du temps en famille, qui aimait les autres quoi, tout simplement. Voilà.
Votre vie bascule le 8 mai 2002. Il y a 8 ans de ça.
Alors c'est ma mère en fait qui a entendu l'annonce de l'attentat à la radio assez tôt dans la matinée. Elle a attendu 8h30, 9h également pour me prévenir par téléphone. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas cru. Je pensais qu'on aurait des informations plus personnelles de la part de DCN s'il y avait eu réellement quelque chose. Et en allumant la télé, effectivement, j'ai vu les dépêches tomber qui se faisaient de plus en plus précises. La DCN, les ouvriers, le bus. Et donc a commencé une attente assez longue et assez cruelle, durant laquelle on a essayé de joindre plusieurs interlocuteurs, que ce soit la préfecture, la cellule de crise, l'ambassade du Pakistan, l'hôtel au Pakistan. Personne ne savait, ou en tout cas beaucoup nous disaient ne pas savoir, et qu'il fallait attendre sagement l'arrivée des officiels de la DCN, qui faisaient le tour des familles décédées. Donc en ce qui nous concerne, ils sont arrivés vers midi et quart, je crois, chez ma mère et ma sœur. Bon, ils n'ont pas eu besoin de parler, elles ont tout de suite compris que c'était terminé.
La France était-elle expressément la cible ou s'agit-il d'une attaque contre la coalition à travers l'un de ces pays?
TF1, 9 mai 2002.
La question demeure chez les enquêteurs, car ce n'est pas le premier attentat anti-occidental au Pakistan ces derniers mois. Depuis, les Américains s'étaient mieux protégés ou ont quitté le pays. Le bus des Français était peut-être une cible simplement plus facile. Des groupes islamistes ont pu vouloir à la fois déstabiliser le Pakistan et frapper un pays de la coalition.
Dès les premières minutes avec la direction des constructions navales, dès les premières rencontres avec les officiels, comment ils expliquent cet attentat?
Alors là, ils ont été tous très unanimes. C'était Al-Qaïda, une frappe aveugle, et d'ailleurs qui n'était même pas destinée aux Français, puisque globalement, certainement qu'Al-Qaïda s'était trompé de cible.
Ah bon, Ben Laden, il avait fait une petite erreur, il avait confondu les Français avec des Américains.
Voilà, alors il est vraiment pas très judicieux, hein, si vraiment il a fait une erreur, parce que quand même un bus rose marqué Pakistan Navy, en gros, je crois qu'il n'y avait que les Français qui circulaient de cette manière à Karachi, puisque justement il n'y avait que les Français, enfin que la DCN, pour ne pas avoir pris des solutions un petit peu plus lourdes pour sécuriser ces expatriés.
Quand on vous dit c'est Al-Qaïda, mais Ben Laden s'est trompé de cible, il a visé des Français à la place des Américains. Vous...
Dans un premier temps, il faut se dire que c'était quand même quelques mois après les attentats du 11 septembre. C'était le Pakistan, donc avec, on le sait, c'est quand même un bon vivier de terroristes islamistes. On y a cru. Dans un premier temps, on y a cru, les premiers jours en tout cas. Et puis petit à petit, quand même, on a trouvé que c'était un peu étrange parce que Al-Qaïda qui se trompe de cible, bon, c'est un peu bizarre. Al-Qaïda, ils avaient quand même l'ambition
si je puis parler ainsi, de faire plus de victimes, alors que là, le nombre de victimes potentielles, c'était une quarantaine de personnes. Et puis surtout, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, Ben Laden n'a jamais revendiqué l'attentat. Il s'est juste félicité des actes terroristes, dont Karachi, mais c'était parmi d'autres. Il n'y a jamais eu de revendication officielle.
Là, naissent les premiers doutes.
Naissent les premiers doutes, voilà. Donc ça, c'est les premiers doutes qui concernent donc l'enquête en elle-même. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'éléments dans le dossier, comme par exemple des contradictions sur la nature de l'explosif, que Jean-Luc Bruguière n'a pas cru bon de relever, hein, tout de même, mais qui nous ont mis un petit peu aussi la puce à l'oreille. Et puis, l'élément aussi important dans notre prise de conscience, ça a été la manière dont on a été géré. À un moment donné, on s'est dit, mais quand même, pourquoi est-ce que nous, finalement, victimes, alors qu'on ne demande pas grand-chose à part être tenu au courant des avancées de l'enquête, pourquoi est-ce qu'on est traité de cette manière? Et on a commencé à sentir que quelque part, c'était pas normal, quoi, ce qui nous entourait.
Il y a une phrase, lors de la cérémonie officielle à Cherbourg, il y a une phrase de Jacques Chirac, qui est à l'époque président de la République, et qui dit « Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage ».
Pourquoi parler de chantage? Pourquoi adresser ce message au public alors que finalement, globalement, Al-Qaïda, ils font pas vraiment du chantage, quoi. Ils se contentent de faire des actes terroristes, de semer la terreur et point à la ligne. Mais ce qui est grave, c'est que ça signifie que le 13 mai 2002, soit quelques jours juste après la mort de nos pères, c'est-à-dire qu'à quelques mètres du cercueil de ces 11 morts, Jacques Chirac, il envoyait un message et il savait déjà finalement que peut-être l'arrêt du versement des commissions qu'il avait lui-même décidé en 95 était la cause. Bah, du carnage que les salariés de la DCN ont subi et que les familles subissent toujours. Ouais. Et ça, on comprend qu'en 2008, quand il y a donc un...
Dans un premier temps, tout va bien. C'est-à-dire, c'est Al-Qaïda. Et d'ailleurs, on arrête des gens au Pakistan et on les condamne à mort.
Oui, il y a eu un procès assez ubuesque, hein, puisque au final, enfin nous on avait des informations par une personne qui nous traduisait des journaux locaux pakistanais.
J'ai deux citations de journaux pakistanais. L'avocat d'un des accusés s'est fait poignarder dans l'enceinte de la prison.
Oui.
Donc c'est quand même, enfin en tout cas en France, c'est assez rare que un avocat se fasse poignarder tranquillement dans l'enceinte d'une prison. L'un des accusés est introuvable dans la prison. Donc ça, c'est quand même assez inédit aussi. Alors peut-être que les prisons pakistanaises sont particulières, mais c'est quand même assez inédit qu'on parvienne pas à retrouver un détenu dans une prison.
Oui, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, décidément, ce Pakistan, c'est quand même très particulier. Et les prisons pakistanaises, ça doit vraiment être quelque chose pour en arriver là. Donc on a été effarés. Je crois que ça rajoute un peu au côté rocambolesque de ce procès qui s'est fini donc en appel en 2009 avec la relaxe des deux condamnés à mort.
Mais alors, dans un premier temps, quand il y a la condamnation à mort des Pakistanais qui appartiendraient au réseau Ben Laden, là, vous êtes soulagés, vous dites, ça y est, la vérité a éclaté, justice est faite.
Non, on l'a pas pris comme ça. On s'est dit, ils ont arrêté des personnes. On espère que c'est les bonnes. Enfin, c'est quand même un pays aussi particulier, le Pakistan. Donc, on n'a pas pris pour argent comptant tout ce qui nous a été raconté dans le cadre de ce procès. On avait déjà des doutes à ce moment-là. Voilà. Donc, on l'a pas pris comme une victoire. Pas du tout même.
Et les doutes, ils sont nés de où alors ?
Les doutes, ils sont nés finalement par l'insistance qu'ont eu les officiels à nous dire « ça ne peut être qu'Al-Qaïda », alors qu'il y avait un certain nombre de pistes qui germaient dans l'esprit d'autres personnes. Il ne faut pas oublier non plus que DCN allait fournir de l'armement aussi à l'Inde, qui est quand même l'ennemi juré du Pakistan. Donc il y avait d'autres pistes, après tout, qui pouvaient être aussi crédibles qu'Al-Qaïda. Et quand j'ai posé d'ailleurs la question une fois au juge Bruguière, déjà son regard assez méprisant au moment de ma question a eu vite fait de me calmer, mais en gros, c'était du n'importe quoi. Voilà, c'était du n'importe quoi. Rien n'avance, on s'épuise. Pour ce qui est de ma famille, ma mère continue d'envoyer régulièrement des courriers au chef de l'État, à Michel Alliot-Marty, à leur ministre de la Défense. Mais au final, rien d'efficace.
Le basculement commence par un changement de juge d'instruction, finalement.
Oui, il faut savoir que c'est un changement dont on n'a pas été informé. Mais pour nous, ça a été absolument providentiel. Alors, on s'en est aperçu quand on a rencontré pour la première fois le juge Trévidic. Rien à voir avec les auditions auxquelles nous avait convié le juge Bruguière. Bon, déjà, c'est parti de sa propre initiative, alors que pour rencontrer Bruguière, il fallait quand même mettre le paquet. Il est venu à Cherbourg. Il a souhaité rencontrer les familles à Cherbourg, puisque la plupart des décédés étaient originaires de là-bas. Donc, on a, bien qu'au départ, on ait eu peur que ce soit pour nous annoncer un classement de l'affaire, on a été touchés finalement. finalement de cette marque de respect, enfin d'humanité. Et puis même dans son attitude et son comportement, c'est quelqu'un de très pédagogue qui voulait vraiment expliquer les choses de manière mesurée, de manière argumentée. Quelqu'un qui à qui on peut poser des questions facilement. Je crois que c'est juste un juge droit dans ses bottes, doué d'une grande humanité et qui a envie de nous aider à obtenir ce qu'on cherche depuis le début, la vérité.
Alors, lui aussi, quand il vous a vu, il vous a dit, il n'y a qu'une piste, c'est Al-Qaïda ?
Ah non, il nous a simplement dit que la piste d'Al-Qaïda, quelque part, elle était mise en sommeil, qu'il n'y avait pas vraiment de légitimité à la poursuivre. Et il nous a plutôt parlé donc de la piste de l'arrêt du versement des commissions, qui pourrait être la cause possible de l'attentat. Et il l'a qualifié, et ce sont ses mots, lors de notre audition, de cruellement logique.
Alors donc là, il y a un rapport qui sort, qui est le rapport Nautilus. On nous dit que c'est rédigé par un ancien agent de la DST, donc c'est-à-dire des services secrets français. Et on lit ceci dans le rapport rédigé par cet agent des services secrets. Après des contacts tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée. Il s'agissait d'obtenir le versement de commissions non honorées et promises lors de la signature du contrat de septembre 1994. Quand vous lisez ça...
Le choc. Quand on dit ça, c'est le choc parce que je pense qu'on ne pouvait pas s'imaginer non plus que ça pouvait être aussi dégueulasse que ça. Nos pères étaient citoyens français et quelque part imaginer que c'est dans les plus hautes sphères politiques françaises que l'on peut trouver le mobile de l'attentat, ça fait mal quelque part. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, on les a envoyés se faire tuer pour des histoires de gros sous et des histoires de guerre politique en France. C'est difficilement supportable parce que je crois qu'on avait une vision de l'État qui était un peu différente. On voyait les politiques comme des personnes qui étaient là pour le bien-être et la sécurité du peuple français. Et là, on s'aperçoit qu'il est possible qu'ils aient été tués finalement à cause de leur manouille.
Guerre politique en France, on parlera bientôt dans la base où j'y suis de l'Afrique, du Congo, et on ne manquera pas évidemment d'évoquer les guerres ethniques, les tensions ethniques. On pourrait très bien appliquer ces guerres ethniques aux guerres entre la droite et la droite, entre Villepin et Sarkozy, entre Balladur et Chirac. C'est des guerres tout à fait de nature ethnique. Quant à l'histoire des gros sous qui sont évoqués, bien évidemment que le pouvoir est lié à l'argent, en ce que l'argent est nécessaire, de plus en plus nécessaire aujourd'hui pour atteindre le pouvoir, pour occuper le pouvoir. Et Michelet disait au 19e siècle, la politique, c'est l'art d'obtenir de l'argent des riches, d'une part, et d'autre part, des suffrages des pauvres, sous prétexte de les protéger les uns des autres. Voilà ce qu'évoque très rapidement, au fond, cette histoire, ce Karachi-Gate, qu'évoque les filles des victimes. Auteur E.S. de « On nous appelle les Karachi ».
Alors, là, il y a le Parisien sur la table. Et en page, c'est le Parisien du jour, donc du 10 novembre 2010. Alors il y a le remaniement qui est bien sûr ce qui est le plus important en France en ce moment. Mais par ailleurs, il y a un article. Karachi, les députés ne transmettront rien à la justice, avec une photo de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée.
Le juge Trévidic a demandé à ce qu'on lui transmette les 62 auditions qui ont eu lieu dans le cadre de la mission d'information parlementaire. Et ça lui a été refusé donc par Bernard Accoyer de l'Assemblée nationale. C'est toujours le fameux principe de la séparation des pouvoirs. Nous, on considère que ces arguments ils sont pas valables, tout simplement, et que c'est à nouveau une tentative d'obstruction.
Donc là, maintenant, c'est Bernard Accoyer qui refuse de transmettre les documents. Mais il y avait déjà eu Christine Lagarde auparavant. Il y avait déjà eu le ministère de la Défense. Il y a eu la direction des constructions navales.
Ben oui, je trouve qu'ils font front, tous ces gens très importants. Pourtant, face à six petites familles de victimes fribourgeoises issues du milieu ouvrier, n'importe qui en France a le droit à la justice et à savoir pourquoi il s'est fait voler sa mobylette, pourquoi il s'est fait agresser. Et là, on a quand même 11 morts. Et tout le monde nous met des bâtons dans les roues pour qu'on puisse pas accéder à la vérité. Pourquoi est-ce que leur carrière serait plus importante que nos vies à nous, quoi ? C'est pas parce qu'on est des petites gens qu'on n'a pas droit à... Moi, personnellement, leur fonction, je m'en fous. Je pense que je leur ai fait comprendre depuis longtemps Leur fonction, ça m'impressionne pas, quoi. Voilà, tout simplement. S'ils ont fait des actes répréhensibles par la loi, mais qui les assume? Moi, quand je me prends un PV pour non-stationnement, je le paye et je râle pas.
Et quand vous les voyez à la télévision, ces grands hommes, Édouard Balladur, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous éprouvez?
Eh bien, je suis fière d'avoir eu un père comme j'ai eu, comme le mien, parce que c'était peut-être qu'un ouvrier, mais c'était quelqu'un de droit dans ses bottes, on ne peut pas en dire autant d'eux. Voilà.
Merci, on aura demain la suite du reportage de François Ruffin dans la Bastille. Je suis merci à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebotte et Marina Touyez. Attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.
Allô, la Française des Jeux? Oui, c'est Ariel Dombal. Je vous ai appelé hier et avant-hier, oui, peut-être aussi. Voilà, j'ai joué à Joker Plus avec l'option plus ou moins 1 et je voudrais être sûre d'avoir gagné même à un numéro près. Bon, un seul petit numéro, en plus c'est celui d'à côté. Vous me confirmez? Ah, vous êtes adorable! Bon, on se rappelle!
Avec la nouvelle option plus ou moins 1, quand vous avez perdu à un numéro près, vous avez gagné Joker Plus. Mettez encore plus de chance de votre côté.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Avec le Grenelle Environnement, réduisons nos déchets. Entreprise de conscience avec Yolaine Delabigne.
45. C'est le nombre de milliers d'euros économisés en une année par l'Union des coopératives laitières dans le conditionnement de leurs bouteilles de lait. Monsieur Fournier, vous êtes responsable technique de la laiterie. Comment y êtes-vous arrivé?
Nous avons investi dans une nouvelle ligne de conditionnement du lait et nous sommes passés de la technologie du PEHD, emballage généralement utilisé pour le lait, au PET, l'emballage le plus couramment utilisé pour l'embouteillage des boissons.
Ça correspondait à quel volume?
On a pu économiser 35 tonnes de matière plastique. On est passé d'une bouteille de 35 grammes à une bouteille de 22.
Plus de témoignages sur réduisonsnosdéchets.fr.
Le ministère du Développement Durable et l'ADEME vous ont présenté Entreprise de Conscience. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Novembre 2010, Stéphane et Chloé s'interrogent.
On fait quoi avant Noël?
Je peux faire une suggestion?
Du 23 novembre au 13 décembre, profitez d'un million de billets TGV à petit prix pour les voyages du 26 novembre au 16 décembre. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Linéa et Intercité.
Super, prendre des billets pour la campagne.
Plus que 999 996 billets TGV à petit prix.
Et on va voir la mer à Saint-Malo.
Plus que 999 994
billets. Ah ouais, et après on part au ski avec les copains.
Plus que 999
999... Non mais c'est fini, oui.
SNCF.
Ce qui est bien sur France Inter, c'est qu'il n'y a pas de pub. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Brice Hortefeux a-t-il porté atteinte à la présomption d'innocence de David Sénat, ancien conseiller du ministère de la Justice? Le tribunal de Paris a mis sa décision en délibéré au 17 décembre. David Sénat avait assigné le ministre de l'Intérieur en référé pour des propos tenus en octobre. Brice Hortefeux accusait, sans le nommer, un haut fonctionnaire, membre d'un cabinet ministériel, d'avoir fourni à des journalistes du Monde des informations dans l'affaire Bettencourt. Depuis, David Sénat a été muté à Cayenne. Il réclame 10 000 euros de dommages et intérêts à Brice Hortefeux, qui n'était pas présent à l'audience. Après les informations du journal Libération, selon lesquelles les préfectures du Calvados, du Haut-Rhin et de Lyon ont demandé aux associations de refuser d'héberger en urgence les étrangers sans papier, le secrétaire d'État au logement Benoît Paru va envoyer une circulaire à toutes les préfectures pour leur rappeler le principe de l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence, quelle que soit la situation administrative des sans-abri. J'ai fait appeler les trois préfectures citées par Libération. C'est réglé, a assuré Benoît Paru. Coup de filet de haut vol à Marseille. Plusieurs hauts fonctionnaires territoriaux sont en garde à vue depuis ce matin dans le cadre d'une enquête sur des marchés publics présumés frauduleux. Au total, une vingtaine de personnes sont entendues. Également en garde à vue, Alexandre Guérini, ancien responsable de plusieurs sociétés spécialisées dans le traitement des déchets et frère de Jean-Noël Guérini, le président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Dans la foulée de la Maison Blanche, les diplomaties du monde entier condamnent les révélations du site Wikileaks, relayées par 5 quotidiens, dont Le Monde. Paris, Berlin, Rome et Londres dénoncent la divulgation de quelques 250 000 télégrammes qui plongent le lecteur au cœur de la diplomatie américaine. Les documents révèlent notamment que l'Arabie Saoudite a demandé aux États-Unis de frapper l'Iran, ce que les présidents iraniens Mahmoud Ahmadinejad qualifient de « sans valeur ». Ils dénoncent une manipulation américaine pour semer le trouble entre l'Iran et ses voisins arabes, voisins arabes qui n'ont pas réagi pour l'instant. Les élections de ce week-end en Haïti sont une farce évidente du début à la fin. C'est ce qu'affirme l'un des observateurs américains du scrutin, pointant l'absence de bulletins, des bourrages d'urnes et le rejet de nombreux électeurs des listes électorales. 12 des 18 candidats en lice à la présidentielle demandent l'annulation des élections qui ont néanmoins été validées par la commission électorale. Les résultats du premier tour sont attendus à partir du 5 décembre. Les actionnaires d'Iberia approuvent la fusion de la compagnie aérienne espagnole avec British Airways. Le mariage va donner naissance à l'un des 3 premiers groupes aériens européens, baptisé International Airlines Group. Mais les deux compagnies continueront à voler sous leur propre couleur. L'euro est passé sous la barre des 1,31 $ pour la première fois en 2 mois. La monnaie européenne reste sous pression, malgré le plan d'aide à l'Irlande, qui ne lève pas les craintes d'une contagion de la crise de la dette souveraine à d'autres pays de la zone euro. Et puis toujours les conséquences de la neige et du verglas, des coupures d'électricité dans le Loiret et d'importantes difficultés de circulation dans le centre, l'est et l'ouest du pays.
Jeudi, à partir de 20h, Brian Ferry, en live sur France Inter. Une soirée présentée par Vali.
Le leader charismatique de Roxy Music revient avec son nouvel album Olympia et choisit France Inter pour son grand retour sur une scène française. Un concert unique en direct et en public du studio 105.
Brian Ferry en live, un concert événement à suivre jeudi sur France Inter à partir de 20h. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter présente Cesaria Evora. Les plus beaux duos de la diva au pied nu. Cesaria Evora seront en concert au Grand Rex les 29 et 30 avril 2011. Retrouvez Cesaria Evora dans le programme musical de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes dégagés, que la neige ne vous a pas empêché de sortir de chez vous aujourd'hui. Enfin bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des difficultés, et même du côté d'Orléans, donc je vous salue particulièrement aussi, et suis heureux de vous trouver à l'antenne. À 16h30, nous aurons le plaisir d'avoir Dominique Meyer, qui est directeur de l'Opéra de Vienne, l'Opéra d'État, s'il vous plaît, et après avoir été le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, il va nous présenter une saison à l'Opéra de Vienne. C'est un cycle de films à l'Auditorium du Louvre, qui aura lieu d'ailleurs ce cycle du 18 décembre au 15 mai 2011. Et pour commencer, un album, Les Clés du Classique, publié par Deutsche Grammophon. Et bien que cet album soit publié avec le partenariat d'une radio concurrente et néanmoins amie, mais excellente bien sûr, et ben, il faut pas rater les occasions de consulter tout ce qui peut faire aimer la musique. Un petit cadeau de Noël, pourquoi pas, donc un double CD. On peut commencer par la toccata de l'Orfeo de Claudio Monteverdi. C'est la musique baroque, c'est autour de 1600. Un des premiers opéras jamais écrits, et on peut dire que l'instrumentation est formidable, qu'il y a quelque chose de très brillant, très luxuriant. C'était une sorte d'appel pour dire aux gens simplement, attention, l'opéra va commencer, revenez des entrées, des coulisses, il faut se préparer à ce beau moment. We'll be right back. Toccata d'ouverture de l'Orfeo de Claudio Monteverdi par The English Baroque Soloist, dirigé par le cher John Elliott Gardiner. Et dans ce recueil, les clés du classique, on trouve Antonio Vivaldi, les quatre saisons, une très bonne interprétation d'ailleurs de Gidon Kremer, Claudio Abbado et London Symphony. On trouve l'aria ou l'air, exactement comme l'a écrit Jean-Sébastien Bach de la troisième suite en ré majeur. On trouve le Messie, l'Alléluia. Bon, tout ça, c'est fort connu. C'est vraiment, peut-être pour ceux qui n'ont jamais entendu de musique classique, mais ce sont des interprétations qui se défendent, on peut en préférer d'autres, mais elles se défendent. Voici une qui est assez peu connue, parce que quand on pense au concerto de Haydn pour la trompette, un concerto qui est dû à une innovation, il ne faut pas oublier que c'est un trompettiste, Weidinger, qui avait inventé une trompette à clé, ce qui a permis à Haydn d'écrire de manière assez riche ce concerto-là. Donc, quand on pense à ce concerto, on pense toujours à Maurice André, notre cher Maurice André et à ses disciples. Mais là, c'est un certain Adolphe Herzet, qui joue de nouveau avec Claudio Abbado, déjà cité, mais avec le Chicago Symphony Orchestra, bah c'est très bien fait, c'est plein d'élan, admirons. (Musique)